Bienvenue dans les Midis de Culture à 13h. Comme promis, je recevrai Louise Aymon. Son premier long métrage, L'Englouti, sort en salle aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le 22 septembre s'achevait la dernière exposition présentée au Centre Pompidou, avant qu'il ne ferme ses portes pour des travaux prévus jusqu'en 2030. L'occasion de revenir pour notre dossier du Point Culture du jour sur l'histoire de la création de ce bâtiment entre politique et ambition culturelle. Claude Mollard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en ingénierie culturelle et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'épopée Beaubourg, de la Genèse à l'ouverture 1971-1978 ». Vous avez fait partie de l'équipe qui a œuvré pour la mise en place du Centre Pompidou. Alors, mai 68 avait eu lieu peu de temps avant. Est-ce qu'on peut dire que l'idée de ce bâtiment culturel était en quelque sorte une réponse à une situation politique ?
Ben, Georges Pompidou l'a écrit dans un livre posthume, « Le nœud gordien », que, effectivement, ce projet est une réponse aux attentes de la jeunesse exprimées en mai 68, qui pour lui était essentiellement culturelle. Donc, de ce point de vue, le centre est une réponse. En même temps, c'était une de ses préoccupations personnelles. C'était un amateur d'art et il était inquiet de voir que New York occupait le domaine de l'art contemporain, alors que Paris avait perdu ce leadership qu'il exerçait, je dirais, avant la guerre.
Et du coup, où se situait à l'époque, pour vous, la grande nouveauté de ce centre ? Est-ce que c'était l'idée du centre multidisciplinaire ?
C'était à la fois un centre qui, au double sens du mot, s'installait en plein cœur de Paris. Donc, il était dans la centralité. C'était même provocateur, d'une certaine manière. Et en même temps, il regroupait toute une série d'activités qui attiraient les jeunes, à savoir l'art contemporain, l'accès direct aux livres, ça n'existait pas. On entrait dans une bibliothèque, il fallait attendre qu'un personnel vous serve. On ne touchait pas les livres dans les bibliothèques à l'époque. Donc ça, c'était une véritable révolution. Et puis, il y avait la musique contemporaine, il y avait le design. Enfin, donc, c'était un grand mélange, un grand carrefour, et tout cela ne pouvait que nous plaire, bien entendu, puisque nous aspirions à cette époque à sortir des hiérarchies, à sortir des cloisonnements disciplinaires. L'université était très hiérarchisée, et d'ailleurs mai 68 c'était une sorte de protestation contre ces cloisonnements universitaires aussi. Et donc le centre, c'était la culture à tous les rayons et librement accessible.
Et donc au-delà de mai 68 et avant même mai 68, André Malraux avait déjà lancé plusieurs initiatives pour démocratiser l'art, rendre plus visible aussi l'art moderne et contemporain. Et il avait eu aussi l'idée d'un musée du XXe siècle. Est-ce que pour vous, il y a une lignée directe entre la pensée d'André Malraux et la création du Centre Pompidou ?
Un peu, mais Malraux, qui voulait une maison de la culture dans chaque département de France, on en a réalisé 5. Et en plus, c'était essentiellement des théâtres. Le cœur de la Maison de la Culture de Malraux est un théâtre, mais pas du tout l'art contemporain, ni la bibliothèque, sauf celle de Grenoble, d'une certaine manière, mais pas tout à fait de sa volonté. Mais Malraux était quelqu'un qui parlait, mais qui ne réalisait pas. Et au fond, en quelque sorte, Pompidou a voulu prendre Malraux à son jeu et dire je commencerai par Paris et cela fera tache d'huile sur toute la France.
Et alors le Centre Pompidou, on le comprend bien, c'est, alors j'irai pas jusqu'à dire avant tout, mais c'est aussi beaucoup une question politique. Le président Georges Pompidou, justement, qui a donné l'impulsion à ce bâtiment, meurt subitement en 1974. Comment le Centre Pompidou s'est relevé de cette mort, qui était le centre qui n'était pas encore ouvert à ce moment-là ?
Ça a été le cœur du drame qu'on a vécu, parce que pour réaliser ce projet impossible, tout dépendait de l'Élysée, donc tout le monde s'opposait à ce projet, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, qui nous finançait, en même temps, nous mettait des bâtons dans les roues. Et donc chaque fois, il fallait monter en arbitrage, et l'arbitre, c'était le président. Et donc, lorsqu'on n'a plus d'arbitre, eh bien, on se sent esselé. Et même son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, va tenter à plusieurs reprises d'arrêter le projet. Et donc, il se heurte à Jacques Chirac, son premier ministre, qui, par fidélité à Pompidou, dont il était proche, va défendre le projet. Mais même ensuite, il va favoriser justement un projet soutenu par André Malraux, visant à empêcher les œuvres des artistes importants comme Picasso, comme beaucoup de Matisse et d'autres encore, et qui étaient le cœur du musée d'art moderne. En réalité, il a essayé de profiter de la réticence d'un certain nombre de donateurs d'œuvres d'art du musée d'art moderne, qui étaient les héritiers de Matisse, Chagall, Picasso, etc., mais qui étaient réticents vis-à-vis du musée d'art moderne que Pompidou voulait construire, et qui sont allés se plaindre auprès de Valéry Giscard d'Estaing pour essayer d'avoir un deuxième musée d'art moderne, alors qu'on n'arrivait même pas à financer le nouveau centre Pompidou. C'était complètement absurde. Et donc, il les a encouragés, si bien que le projet risquait de mourir de lui-même, faute d'œuvres d'art, ou du fait qu'il y aurait eu deux musées d'art moderne, plus celui de la ville de Paris, et finalement qui serait resté irréalisable. Donc ça a été vraiment une période de tension extrême. C'est la raison pour laquelle j'appelle ça l'épopée, parce que tous les jours, il fallait vaincre une difficulté.
Et il faut aussi parler du lieu même, qui en soi était aussi une difficulté, cette architecture qui a été assez mal reçue. Comment a été conçue cette idée du bâtiment? Quelles ont été les demandes faites aux architectes? Et aussi, comment s'en sont-ils emparés eux-mêmes?
Alors, le bâtiment a été en quelque sorte prédéterminé par une volonté tout à fait nouvelle de Georges Pompidou de faire un concours international. On n'avait pas l'habitude de faire ça en France. On s'adressait à des architectes qui avaient fait le prix de Rome, qui avaient fait la Villa Médicis à Rome, et qui étaient souvent très conservateurs. Et donc, le fait d'avoir des projets venant de tous les pays du monde, on a eu 681 projets, et d'avoir à la tête du jury un homme révolutionnaire comme Jean Prouvé, qui était l'inventeur des murs rideaux, des nouveaux modes de construire des immeubles, etc., qui était un génie. Ce mélange d'internationalisation du projet et d'appel à cet homme et à d'autres très, très audacieux débouchait sur le projet de Piano Rogers. Et donc ce projet, au fond, Georges Pompidou ne l'aimait pas, mais il a eu l'honnêteté de dire « je me plie aux artistes qui... » parce que c'était de véritables artistes, aux artistes architectes qui ont imaginé cette folie qui a sans doute une raison d'être. Et donc, il y aura un peu d'hésitation la première année, après le choix, parce qu'il fallait quand même que ce projet trouve sa place en plein cœur de Paris, qu'il ne soit pas trop haut, donc on va l'abaisser, qu'il soit suffisamment grand, tout en laissant une place devant lui. Enfin bref. Il a fallu arranger, contourner, supprimer les bâtiments autour du bâtiment pour qu'il trouve, autour de l'architecture, pour qu'elle trouve sa place finale. Enfin, tout ça, ça a été finalement très, très ardu.
Merci, mais, Claude Moillard, merci.
Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie.
Suite de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, une nouvelle tombola pour espérer gagner un Picasso. C'est Noël aujourd'hui.
Et en effet, renouvelant l'opération de 2020, cette loterie permet d'acquérir un tableau de grande valeur pour la somme de 100 euros et vise cette fois à verser des fonds à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. L'œuvre mise en jeu d'une valeur d'1 million d'euros est encore une fois un tableau de Pablo Picasso, tête de femme, une gouache sur papier représentant un portrait de sa muse Dora Maar, réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. 120 000 billets sont disponibles en ligne et le tirage aura lieu le 14 avril 2026 chez Christie's à Paris.
Et pour finir, en Égypte, des archéologues ont mis au jour les vestiges d'un temple solaire rare, vieux de 4500 ans.
Et oui, identifié dès 1901 par l'archéologue Ludwig Borchardt, le site n'avait jamais été fouillé en raison du niveau élevé des nappes phréatiques. Une mission italienne dirigée par les égyptologues Massimiliano Nuzzolo et Rosanna Pirelli a révélé pour la première fois plus de la moitié de ce temple solaire de plus de 1000 mètres carrés, longtemps enfoui sous des sédiments du Nil. Construit dans la nécropole d'Abouzir par le pharaon Nusseré de la 5e dynastie, il était dédié au culte du dieu Ré, essentiellement représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, coiffé d'un disque solaire entouré par un cobra. Des bases de colonnes, des revêtements muraux, des seuils en granit ainsi qu'une rampe inclinée ont été identifiés et seront analysés dans les moindres détails par les experts.
Merci beaucoup Sophie Catherine et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. Pour l'heure, il est 13h et les midis poursuivent leur route.